Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nouveau thème que nous allons développer sur quelques chroniques dans le cadre de votre coach et vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil de communication qui s'appelle le photolangage, un outil qui assez logiquement est relativement récent puisqu'il est question de photos. Alors on pourrait toujours dire que ça remonte au 19e siècle, mais enfin, vous allez nous expliquer dans un premier temps de quoi il s'agit, ce que c'est, quelles en sont les origines. On va détailler tout cela, alors je vous laisse par conséquent la parole. Ce mot-là, photolangage, peut-être dit-il quelque chose à certains de nos auditeurs, mais pour tous, je vous invite à nous expliquer donc ce que c'est.
Effectivement, photolangage est un mot de plus en plus utilisé et qui a une consonance de plus en plus familière pour tout le monde, notamment bon, pour nous, les coachs et animateurs de séminaires, puisque c'est un outil de communication que nous utilisons avec beaucoup d'intérêt. Alors, photolangage, c'est un mot registered, hein, puisque ça appartient donc à ceux qui en ont créé le concept. Hein. Ce sont donc des psychosociologues lyonnais qui ont mis ça en place dans les années 1968-1970. Tout à fait inopinément, ils travaillaient avec un groupe d'adolescents. C'était un petit peu difficile de les capter, de les aider, de les entraîner à parler. Et ils se sont rendus compte qu'avec des images, ces adolescents s'exprimaient, les langues se déliaient et les émotions filtraient. Donc ils ont eu l'idée d'en faire un outil et d'en déposer cette marque. Donc de déposer la marque Photolangage. Alors c'était donc Alain Baptiste, Claire Belisle et Pierre Babin qui ont mis au point cette méthode destinée à faciliter ce travail en groupe et donc à travailler aussi sur des thèmes.
Quelle est cette méthode par conséquent ?
Alors donc cette méthode, il s'agit d'avoir un grand nombre de photos et d'images à notre disposition. Ces trois psychosociologues ont créé des blocs et des coffrets d'images. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous utilisons des blocs d'images que nous créons nous-mêmes ou que nous pouvons avoir dans le commerce sous différentes marques. Alors, l'idée est d'avoir donc un grand nombre d'images à notre disposition, bien sûr en relation avec le nombre de participants. Et il faut qu'il y ait au moins aux environs de 8 à 10 images par participant. Et donc, ce bloc d'images, moi, je conseille qu'il soit le plus diversifié possible. Et donc, il faut qu'on y retrouve des paysages familiers, des paysages exotiques, des animaux, des êtres humains, des parents, des enfants, des adultes, en train de jouer, en train de réfléchir, en train de faire du sport. Voilà, vraiment quelque chose de très très diversifié. Et pour créer son bloc d'images, il faut justement ne pas les choisir, parce que le bloc d'images n'est pas une représentation de nos propres choix ou de nos propres évaluations ou de nos propres tendances. Hein. Donc on doit faire attention justement d'aller chercher des images très diversifiées que l'on choisirait ou que l'on ne choisirait pas.
Donc c'est pas en fonction de notre goût ?
Surtout pas. Voilà, c'est très important hein, parce que si on ne prend pas cette précaution, notre bloc d'images va être un petit peu orienté. Mmh. C'est pour cela que d'ailleurs Pierre Babin, Alain Baptiste et Claire Belisle avaient créé des blocs d'images et de photos et souhaitaient au départ que l'on utilise que les leurs.
Est-ce que ça signifie que ces images sont toutes en couleur ou en noir et blanc ou bien d'une grande taille, d'une petite taille ? Est-ce qu'on a aussi un certain nombre de règles à respecter sur ce plan-là ?
Cette question est très intéressante. J'ai remarqué que les blocs à disposition sont en noir et blanc et plutôt de la taille de grandes cartes postales. Ceci étant, aujourd'hui, on trouve de tout. On trouve des photos en couleur aussi. Voilà, si vous voulez des tailles respectives, la taille peut être la carte postale ou le format A5, c'est-à-dire la moitié d'une feuille.
Je vous pose la question parce qu'il me semble qu'une fois, la remarque a été faite qu'il ne fallait pas mélanger justement différentes tailles, ne pas avoir des images grandes et des toutes petites, qu'il fallait avoir une certaine uniformité, enfin un gabarit en tout cas commun.
Oui, alors ça, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que les images soient de la même taille pour qu'il n'y en ait pas qui attirent l'œil plus qu'une autre par rapport au format ou par rapport au fait qu'elles seraient différentes. Donc effectivement, si on a 50 images, il faut qu'elles se présentent à peu près de la même manière. Il ne faut pas que ce soit un aspect extérieur, une taille, une forme qui attirerait l'œil. Voilà. Donc on ne mélange pas de photos noir et blanc et de photos couleur, par exemple.
Okay.
Si on a un bloc, on choisit soit le noir et blanc, soit la couleur.
Alors après, une fois qu'on a rassemblé ces photos, qu'on a un bloc, comme vous dites, quel va être l'usage de ces photos ?
Donc mon bloc, justement, eh bien, je vais le disperser sur des grandes dames. Donc il faut de la place quand on fait du photolangage, puisqu'il faut pouvoir poser sur une grande dame toutes ces images et qu'elles soient visibles très facilement d'un coup d'œil. Voilà, il faut qu'elles soient accessibles visuellement très facilement. Donc on a notre grande table et donc l'idée est que l'on va expliquer aux participants que l'on va travailler non pas sur le raisonnement comme on peut le faire habituellement, mais plutôt sur un mode intuitif ou en tout cas sur un mode émotionnel. Voilà, donc en fait cet outil nous sert pour ne pas faire comme d'habitude, je dirais. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille en séminaire ou que l'on travaille en individuel, on peut poser des questions à un groupe, on peut poser des questions à une personne. Et donc, instinctivement, elle va raisonner en elle et se poser la question « qu'est-ce qui fait que ?» et puis partir peut-être dans un raisonnement mathématique. Hein, « A est plus grand que B, B est plus grand que C, donc A doit être plus grand que C. » C'est un raisonnement. Et là, quelquefois, on se rend compte que quand on veut travailler sur le psychisme ou si on veut travailler sur quelque chose qui est un petit peu nébuleux et sur des représentations qu'on n'arrive pas à exprimer, cette méthode de raisonnement ne porte pas ses fruits et donc n'incite pas non plus les personnes un petit peu timides à s'exprimer puisqu'on n'a pas de support. Donc l'image arrive comme un support, comme une aide, comme un médium pour exprimer des ressentis, des émotions ou même des idées.
Est-ce que le photolangage, par conséquent, est un moyen de briser la glace pour entrer en relation, pour permettre à quelqu'un de s'exprimer, ou est-ce que c'est plus que cela encore ?
Alors, ça va briser la glace, ça c'est une excellente expression, ça va briser la glace, ça va surtout briser sa glace, je dirais, dans le sens où il va être, malgré lui, amené à s'exprimer. Voilà. Donc, en fait, on parle en PNL, on parle de cerveau droit, du cerveau gauche, c'est-à-dire donc le cerveau du raisonnement et le cerveau de l'intuition, de l'émotion. Bon, en fait, ce sont des zones qui sont bien identifiées en imagerie médicale. Et habituellement, à l'école, surtout nous, avec les petits Français, on a appris à bien raisonner. Hein. On a les méthodes, on a quand même Descartes chez nous. Et donc, on a des esprits peut-être cartésiens, mathématiques, et ce raisonnement part donc d'hypothèses, et à partir d'hypothèses, on fait un cheminement pour arriver à une conclusion. Mais quelque part, il est parfois difficile d'extraire des indications à partir des hypothèses. Les personnes ont des hypothèses et ne savent pas quoi en faire, et donc n'arrivent pas à exprimer ou à donner les bonnes raisons pour lesquelles elles sont plutôt portées à faire de la menuiserie ou à faire des mathématiques ou à être pianiste.
Ce qui signifie que le photolangage permet d'exprimer cela sans pour autant en avoir nécessairement conscience.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va amener le participant. Donc si on repart un petit peu de la présentation et de comment ça fonctionne, donc le formateur, l'animateur, le coach est là et donc il va poser par exemple une question, quelle est votre représentation de votre métier ? Et à ce moment-là, bon, on peut avoir des représentations, mais si on veut aller plus loin ou si la personne ne sait pas vraiment quoi dire sur ce métier, qu'est-ce qui fait qu'elle aime ce métier ? Elle sait qu'elle l'aime, mais elle ne sait pas exactement pourquoi. Eh bien, elle peut aller choisir une, deux, trois images qui représenteraient ce métier. Et donc, personnellement, je préconise de ne pas trop réfléchir et de ne pas aller chercher l'image selon un raisonnement. Tiens, il y a un homme, une femme, un enfant sur cette image, donc ça représente bien mon métier, mais plutôt de se laisser porter. Et donc, ce que je dis souvent, c'est l'image doit vous appeler. Donc, ce n'est pas vous qui choisissez l'image, mais c'est l'image qui vous appelle, qui vous choisit. Et ensuite, quand on commentera l'image, on ira dans la zone du raisonnement.
Donc l'image est réellement capable de nous choisir ?
Eh bien écoutez, je pense, oui, ça marche. Hein. Donc, non. En fait, c'est une manière de dire de ne pas rester trop longtemps et de partir de nouveau dans un raisonnement, mais faire confiance à une intuition.
D'être dans la spontanéité, d'agir selon le feeling, comme on dit aussi parfois.
Voilà, tout à fait. Ce fameux feeling. Et après, on donne une explication au feeling. Et bien souvent, c'est en commentant l'image. Je pense que je pourrais vous donner quelques exemples après, mais c'est en commentant cette image. Donc, je parle de rugby, je parle de course à pied, je parle d'une des sept merveilles du monde, je vous commente une plage, je vois des gens qui gagnent, je vois des personnes qui jouent aux échecs. Et tout cela, je vais le commenter et je vais en extraire des concepts qui correspondent justement à ce pourquoi j'aime ce métier. Pas le métier qui était sur la photo, mais le métier que j'exerce.
Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait de tout ce qui ressort à ce moment-là ?
Alors là, tout dépend de la raison pour laquelle on a mis en place ce photo-langage. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui des séminaires de motivation, des séminaires de cohésion d'équipe. Lors d'une réunion, nous pouvons tout à fait travailler sur un thème qui est important et on voudrait que les personnes soient en cohésion sur ce thème, aillent dans le même sens ou voient les choses de la même manière pour que ça soit une véritable équipe. Une équipe qui gagne, une équipe qui aime travailler ensemble. Et aussi la possibilité que chacun s'exprime et donc d'élargir les concepts. Par exemple, récemment, j'ai travaillé avec une entreprise qui voulait mettre en place encore plus de leadership, avoir des managers encore plus charismatiques. J'ai travaillé avec ces managers et nous avons travaillé avec le photolangage pour exprimer quelles étaient leurs représentations du leadership ou du charisme.
Alors, Christine, je vais vous laisser garder encore un certain nombre d'exemples pour les prochaines chroniques. Nous allons nous retrouver à deux moments encore à parler du photolangage et du travail qui peut être accompli autour du photolangage. Nous parlerons la prochaine fois du travail de groupe et puis ensuite nous parlerons du travail au niveau individuel, de l'utilisation donc de cet outil sur le plan individuel. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve bien entendu la prochaine fois. Merci déjà pour ces éléments et à bientôt.
À bientôt, Fabrice.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.